Bonjour amis auditeurs et auditrices, Nicolas Lost au micro sur Radio Grand Ciel pour vous proposer l'émission Crescendo pendant 30 minutes. Eh bien, nous allons nous familiariser avec la vie et les œuvres d'un compositeur et pourquoi pas nous tourner vers l'une de ses œuvres majeures qui a marqué l'histoire de la musique, et c'est bien de cela qu'il s'agit, l'histoire avec un grand H, puisque notre compositeur du jour, qui est français, est l'auteur d'une œuvre pour orchestre très populaire qui figure parmi les œuvres les plus jouées dans le monde. Alors, si je vous dis Boléro, vous associerez peut-être tout naturellement, comme beaucoup de personnes le font, Maurice Ravel, à qui est consacré ce numéro de Crescendo. Voilà, c'était un petit extrait de cette pièce célèbre avec cette rythmique qui vous prend tout simplement et qui ne vous lâche plus jusqu'à la fin de ce morceau du Boléro. Alors, dans une précédente émission, nous avions partagé l'œuvre de Bizet, dont Carmen est certainement l'opéra le plus joué dans le monde, ou arrive dans le trio de tête. Et bien, s'agissant de l'œuvre orchestrale, c'est de nouveau un Français qui est en tête de liste, en tête de palmarès, Maurice Ravel et son célèbre Boléro. Alors j'ai réellement moi-même fait le test auprès d'une dizaine de personnes en leur donnant ce mot de Boléro. Je leur ai demandé de me répondre par un mot. Et bien, toutes les personnes que j'ai interrogées m'ont donné comme réponse Maurice Ravel. Alors, mais avant de nous intéresser plus précisément à ce Boléro, intéressons-nous à la vie de son auteur. Maurice Ravel est né à Cibourne le 7 mars 1875. Cibourne qui est situé dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors ça fait face pratiquement dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, ça fait face à Saint-Jean-de-Luz, et surtout eh bien, c'est une ville voisine qui est située à quelques encablures du pays voisin qu'est l'Espagne, car c'est en Espagne, eh bien, à Madrid, que son père, qui était ingénieur, rencontre la future Madame Ravel. Alors le petit Maurice, donc, né le 7 mars 1875, et la famille Ravel, eh ben, va monter à Paris pour s'y installer. Et les parents encouragent très tôt, eh bien, le petit Maurice à développer ses qualités de musicien. Il débute le piano dès l'âge de 7 ans. Et à 11 ans, eh bien, son père l'inscrit en classe d'harmonie, ce qui permettra d'ailleurs à Maurice Ravel de s'essayer assez tôt à la composition. Il entre en 1889, à l'âge de 14 ans, il entre au Conservatoire de Paris, et là, il travaillera le piano, il travaillera la fugue et le contrepoint, et son professeur de composition sera un certain Gabriel Fauré. En 1895, Maurice Ravel a 20 ans, quand il compose sa première Habanera, qui est écrite pour deux pianos. Elle sera créée par un pianiste espagnol qui sera très proche de toute la vie du compositeur, c'est Ricardo Vines. C'est avec Ricardo Vines que Maurice Ravel a commencé à étudier, est entré au conservatoire, donc ils se connaissent depuis longtemps. Et c'est Ricardo Vines qui crée cette œuvre de jeunesse qui composera à l'âge de 20 ans, cette Habanera pour deux pianos. Alors, Ravel composera beaucoup d'œuvres en référence à l'Espagne, ce pays qui était cher notamment à sa maman, à sa mère. Sa mère adorait l'Espagne. Et comme Ravel, eh bien, adorait sa maman, il n'avait de cesse de partager avec elle ses goûts culturels et artistiques. Et aussi, il avait le souhait de lui faire plaisir en composant lui-même des musiques à l'accent espagnol. En 1901, 1, eh bien, Ravel termine sa cantate qui se nomme Mira, et cette cantate lui servira pour postuler au Grand Prix de Rome. Mais Maurice Ravel n'obtiendra que le second prix et il ne parviendra pas davantage à remporter le Grand Prix les deux années suivantes. Pourtant, à cette époque, Maurice Ravel a déjà publié des œuvres reconnues. Alors on peut citer par exemple la pièce « Les Jeux d'eau » qu'il dédiera à son maître Gabriel Fauré. Et on peut citer aussi sa pavane, qu'il nommera la pavane pour une infante défunte, qui sera composée tout d'abord pour piano en 1899, et que Ravel adaptera par la suite pour orchestre. Alors, écoutons un extrait de cette magnifique pavane pour une infante défunte. Un extrait de cette magnifique pavane pour une infante défunte, avec une magnifique limpidité, simplicité, eh bien, dans le discours qu'apporte Ravel au piano. Alors, pour la petite histoire, eh bien, cette pièce lui a été commandée par la fille héritière de la famille Singer, qui était une grande mécène artistique et qui a commandé de nombreuses œuvres auprès de plusieurs compositeurs de son temps. Alors, les échecs du prix de Rome n'empêcheront pour autant pas Maurice Ravel d'affirmer sa personnalité musicale. Et au début bien de ce XXe siècle, s'ouvrira pour lui une période particulièrement féconde au cours de laquelle il composera de nombreuses mélodies qui deviendront pour beaucoup célèbres. Alors je pense par exemple à son œuvre Scheherazade qu'il écrira en 1904, à son autre œuvre Les Miroirs qui date de 1905, il écrira aussi un très bel Allegro pour harpe qui date de 1906. Un cycle également qui se nomme Histoire naturelle, qui date de 1907, et puis la célèbre Rhapsodie espagnole, qui, elle, date de 1908. Vous voyez que en ces débuts du XXe siècle, l'inspiration du compositeur était réellement fertile. Alors le style Ravel déroute parfois avec de multiples inspirations, comme le jazz, l'Orient également, la nature avec son cycle d'histoire naturelle, ce qui fait penser quelques années plus tard Olivier Messiaen, qui s'inspira lui aussi beaucoup de la nature pour composer nombre de ses œuvres. Ravel s'inspirera aussi de ses pairs dans la musique française, notamment Rameau ou bien Couperin. Et puis il s'inspirera également de bon nombre de mélodies populaires qui venaient d'Espagne. Alors la critique a plutôt tendance à comparer Ravel à Debussy. C'est vrai qu'on dira souvent que Ravel sera dans l'ombre de Debussy et que finalement Ravel ne réussira qu'à avoir une notoriété qu'à la mort de Debussy, qui interviendra en 1918. Bon, c'était deux styles différents, parce que Ravel, c'était d'abord et avant tout le piano avec lequel il exprime la première version de ses compositions. Je vous en parlais pour la pavane de l'infant défunte que nous avons écouté un instant. Eh bien, 10 ans sépareront sa version pour piano de la version pour orchestre qu'il écrira en 1910. 30 ans sépareront la version piano du menuet antique de son orchestration. Alors, Maurice Ravel est aussi l'auteur de deux concertos pour piano, tous deux conçus en 1929. L'un de ces concertos est appelé le concerto en sol, et l'autre est nommé le concerto pour la main gauche. Alors, je m'arrête un petit peu sur ce titre étonnant. Pourquoi concerto pour piano pour la main gauche? Alors, cette œuvre, en fait, lui a été commandée par Paul Wittgenstein, qui était un fameux pianiste autrichien, et malheureusement, ce pianiste, au cours de la Première Guerre mondiale, avait perdu son bras droit. Et Paul Wittgenstein se tourna alors vers des compositeurs pour leur demander de composer pour lui, mais composer tout simplement pour sa main gauche. Et c'est une histoire tout à fait étonnante. Et donc, ce concerto, lorsqu'il est interprété, les pianistes n'utilisent seulement que leur main gauche. Écoutons un extrait de ce concerto pour piano, concerto avec orchestre, bien entendu. Thank you. Histoire étonnante que cette œuvre composée pour la main gauche, concerto pour piano, pour la main gauche, écrite à l'intention de Paul Wittgenstein, qui était un pianiste autrichien qui avait perdu son bras droit au cours de la Première Guerre mondiale. Alors, je vous encourage, chers amis auditeurs, eh bien, pourquoi pas aller écouter ce concerto, aller le visionner par Internet. Vous verrez, c'est tout à fait étonnant de voir les pianistes qui l'interprètent seulement avec leur main gauche et qui donnent la réplique à tout un orchestre symphonique. Alors, Ravel est aussi un ardent patriote. Il tient d'ailleurs lui-même à participer à la défense de son pays au cours de la Première Guerre mondiale. Alors, bien qu'il soit exempté de service militaire, cela en raison de sa petite taille, alors il parvient quand même, eh bien, à force de démarches, à se faire engager comme conducteur, notamment conducteur de camion, et il a envoyé près de Verdun. En 1917, date charnière pour Ravel, car c'est cette année-là que meurt sa maman. Il était très proche, il a toujours été très proche de sa maman, et ce décès ainsi que les raisons de la Première Guerre mondiale, eh bien, cela le laisse Ravel dans une profonde souffrance. Alors il souffrira pendant quelques années, 3-4 ans d'insomnie, et il composera d'ailleurs à cette époque, en 1919, une œuvre magnifique qui s'intitule Le tombeau de Couperin, et cette œuvre sera d'ailleurs dédiée aux amis qu'il aura rencontrés au cours de cette Première Guerre mondiale, ces amis qui seront tombés sur le front. En 1921, Ravel s'installe tout près de Paris, dans les Yvelines, à Montfort-l'Amaury, et le calme et la quiétude de cette ville réussiront peu à peu à le sortir de sa dépression. Toujours en 1921, Maurice Ravel est promu chevalier de la Légion d'honneur, mais il refusera de recevoir cette distinction. Après la guerre à Paris, c'est l'arrivée des ballets, et c'est pour un ballet d'ailleurs que Ravel écrira quelques années plus tard son célèbre Boléro, qui résumera peut-être sûrement à tort, cette œuvre résumera à elle seule, eh bien, la carrière de Maurice Ravel. Alors, à raison, mais à tort, parce que comment ne délaisser, eh bien, toute la forêt merveilleuse qui est la production de Maurice Ravel. En 1928, Maurice Ravel part outre-Atlantique pour entamer une tournée triomphale aux États-Unis et au Canada. Alors, à New York, eh bien, il fréquentera les clubs de jazz. Il rencontrera notamment Gershwin. En 1932, Maurice Ravel sera victime d'un accident de voiture, et cet accident, malheureusement, accentuera une maladie neurologique. Ravel perdra peu à peu ses facultés à composer. Il perdra aussi la parole. Dans l'un des derniers écrits de Maurice Ravel, il regrette de ne plus pouvoir composer, car il aurait aimé s'atteler une dernière fois à la tâche pour composer Jeanne d'Arc, l'opéra Jeanne d'Arc. Il écrira: cet opéra est pourtant là dans ma tête, mais je n'ai plus la force de composer. Une ultime opération de la dernière chance, opération du cerveau, sera tentée en 1937, mais malheureusement elle plongera Ravel dans le coma, et Maurice Ravel s'éteindra le 28 décembre 1937 à Paris, à l'âge de 62 ans. Ravel n'a pas été marié, il n'aura pas eu d'enfants. C'est pour les enfants de son ami sculpteur, un certain Godepski, que Maurice Ravel composera une suite de contes qu'il intitulera « Ma mère loi », et donc inspiré de contes pour enfants. Là aussi des contes merveilleux dans leur simplicité, dans leur composition. Et je vous propose d'écouter un extrait de l'un de ces petits contes enfantins qui s'intitule « La pavane de la belle au bois dormant ». Thank you. Voilà, petit conte pour enfants écrit pour piano par Maurice Ravel. Cette série de contes, d'ailleurs, sera aussi orchestrée quelques années plus tard par Maurice Ravel. Et là, c'était la pavane de la Belle au bois dormant. Alors, venons-en, eh bien, vous l'attendez avec impatience, venons-en au fameux Boléro. Alors, il a été écrit à son retour des États-Unis. Ravel revenait des États-Unis. Il répond alors à une commande pour un ballet à caractère espagnol. Alors, il entame l'écriture en juillet 1928 et le ballet sera créé quelque temps après, en novembre 1928, à l'Opéra de Paris, devant un parterre stupéfait devant cette œuvre singulière qui tient le pari de durer 18 minutes avec seulement une ritournelle inlassablement et inlassablement répétée. Ravel lui-même sera vite exaspéré par le succès de cette partition, mais c'est là la singularité des artistes. Comme il a refusé quelques années auparavant la Légion d'honneur, et là, Maurice Ravel refusera aussi le succès de son Boléro. Alors, quelques détails importants ou moindres sur cette œuvre que j'ai pu relever et glaner ici et là. Alors, à l'entendre, eh bien, à l'entendre à de multiples occasions, au concert, on finit par oublier que cette musique du Boléro est d'abord écrite et faite pour être dansée, donc pour accompagner un ballet. Le Boléro, c'est une danse espagnole à trois temps et qui a fait son apparition au XVIIIe siècle en Espagne. Manuel Rosenthal, autre compositeur français très connu, qui était élève de Maurice Ravel, a bien tenté de réconcilier le Boléro avec son auteur, mais il n'a pas obtenu grand succès. Maurice Ravel tournait toujours le dos à cette œuvre. Le grand chef, autre anecdote, le grand chef italien Arturo Toscanini fit les frais un jour du mécontentement profond de Maurice Ravel. Toscanini avait dirigé son Boléro deux fois plus vite que ne l'indique la partition. Ravel lui adressera ce message un peu cassant. Eh bien, monsieur, je vous conseille de ne plus jouer ma musique. Alors, dans les versions du Boléro, on en trouve beaucoup. Certaines ont marqué l'histoire de la musique. On pense notamment à Serge Liffard qui a fait une très très belle version qui date de 1941. Maurice Béjart, pour ses qualités de mise en scène de ballet, a fait aussi une version qui est restée dans l'histoire du ballet. Cette version date de 1961. Et à la pellicule, au cinéma, c'est Claude Lelouch aussi qui utilisera ce thème du Boléro pour son film Les Uns et les Autres. Alors, autre anecdote un petit peu surprenante, j'ai relevé que Georges Lucas, pensant à utiliser le Boléro pour illustrer son film Star Wars, il avait pourquoi pas idée de faire un petit peu comme Stanley Kubrick qui avait utilisé également des thèmes classiques pour illustrer l'Odyssée de l'espace. Eh bien, Georges Lucas avait songé à la même chose, mais il abandonnera l'idée. Mais le point, je dirais, le plus étonnant et peut-être aussi le plus sombre, c'est certainement l'histoire des droits d'auteur de cette œuvre, des droits d'auteur du Boléro, qui sont tout à fait rocambolesques, alors qu'ils ont fait jurisprudence multiples fois dans la juridiction des droits d'auteur. Alors, ces histoires mêlent à la fois des faits divers, des conflits d'intérêts. Elle fait apparaître aussi des sociétés offshore qui se situent au Panama, qui encaisse les droits d'auteur de cette œuvre. Mais pour la France, le Boléro de Ravel est entré dans le domaine public, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de droits à payer aux ayants droit, aux descendants. Le Boléro est entré dans le domaine public depuis le 1er mai 2016, mais l'œuvre reste encore protégée dans de nombreux pays, notamment les USA. Je crois qu'elle est protégée jusqu'en 2024. Mais voilà, restons dans des considérations musicales en écoutant de larges extraits de ce Boléro de Maurice Ravel. J'espère vous avoir passionné avec la vie de Maurice Ravel. Je vous encourage bien sûr à vous tourner davantage vers son grand catalogue de compositions. Vous y trouverez vraiment des pièces magnifiques. Merci de votre écoute. Merci à Simon qui était à la réalisation. Et cette émission sera disponible en réécoute sur le site de Radio Grand Ciel. À très vite. Merci.